Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par l'EFRAY. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'EFRAY, nous allons revivre ensemble trois dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'EFRAY, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants de Jean Jouzel. Bonjour Jean.
Bonjour Laure.
Bienvenue sur le podcast KeyTime. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore ?
Oui, j'ai 76 ans. J'ai fait toute... Mon activité a été vraiment une activité de chercheur. Je me suis intéressé toute ma carrière pratiquement à l'évolution du climat. Donc mon domaine d'expertise, c'est l'évolution passée de notre climat à partir des glaces polaires, mais... De plus en plus, je me suis intéressé à son évolution future. Voilà, donc mon domaine d'expertise, c'est vraiment l'évolution du climat. Et effectivement, j'ai beaucoup de questions qui se posent par rapport à son évolution future, par rapport à ta génération, Laure. Quel sera le climat dans lequel tu vivras dans la deuxième partie de ce siècle? Pourras-tu t'y adapter? C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui.
Et les inquiétudes de ma génération aussi. Alors, on a pour habitude de présenter nos invités avant de commencer notre voyage dans le temps. Alors, laisse-moi donc te présenter en quelques mots. Paléoclimatologue, tu es un chercheur dans l'âme. À ton actif, tu détiens la médaille d'or du CNRS, la plus haute distinction scientifique française. Tu es aussi le premier Français à avoir reçu le prix Vetlesem, considéré comme l'équivalent du prix Nobel et qui est un des prix les plus prestigieux dans le monde de la science, de la Terre et de l'univers. Et bien d'autres prix encore, comme le prix de l'Académie des sciences, le prix Descartes, ou encore le prix Nobel de la paix avec le GIEC, qui est groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Tout comme le podcast KeyTime, tu as remonté le temps. Tes recherches ont permis de reconstruire les climats du passé à partir de glaces polaires et d'ainsi faire le lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Tes travaux ont montré la corrélation entre les gaz à effet de serre et les climats du passé, mais aussi les importantes et rapides variations du climat à l'échelle d'une vie humaine. 400 000 années, puis 800 000 années d'histoire climatique sont passées sous tes mains. Celui qui fait parler la glace, comme on peut le lire dans les médias, infatigable lanceur d'alerte climatique, ton optimisme se tourne aujourd'hui vers la jeunesse et leur conscience climatique. Quelles sont donc les trois dates clés qui ont marqué ton histoire? Pour ça, je te laisse la main pour nous donner un aperçu et nous donner ton code temporel.
Mon code temporel, 69-02-12.
Et est-ce que tu peux nous donner un aperçu rapide de chacune de ces dates?
69, c'est la rencontre avec Claude Lorius. 2002, c'est la médaille d'or du CNRS. D'ailleurs, disons que j'ai eu aussi avec Claude Lorius. Et 2012, c'est le prix Vetlesem. Tout cela pour, disons justement, récompenser, en tout cas prendre en considération nos travaux sur les variations climatiques sur les 400 000 dernières années ou sur les 800 000 dernières années pour le prix Vetlesem. Et aussi l'existence de variations climatiques rapides. Ces découvertes, ce sont plutôt dans les années 80, les années 90.
Eh bien, c'est parti. Lançons la machine à voyager dans le temps pour remonter ton histoire. Nous sommes un matin de janvier 1969 dans le laboratoire de Saclay où tu y fais ta thèse. Tu as entre les mains un grelon aussi gros qu'une boule de billard et tu travailles à côté d'un groupe de glaciologues. Il y a parmi eux Claude Lorius, c'est ça ?
Oui, c'est cela. Effectivement, je suis dans ce laboratoire depuis octobre 68, quelques mois avant. Je souhaite faire une thèse. Je sors de l'école de chimie de Lyon. Je souhaite faire une thèse et me rapprocher de ma Bretagne natale. Et je regarde des propositions de thèse à Paris. Saclay, c'est au sud de Paris. Et là, on me propose un sujet de thèse sur la formation de la grêle. Donc la grêle, c'est de la glace. Et... dans ce même laboratoire, donc on analyse cette glace pour en reconstituer les températures de formation des différentes couches. Et dans ce même laboratoire, Claude Lorius, glaciologue, lui revient de l'Antarctique, vient avec d'autres échantillons de glace, en fait de la neige de l'Antarctique, qu'il vient faire analyser dans notre laboratoire, lui aussi pour reconstituer les, disons, pour voir le lien entre la formation de cette neige et sa température de formation et le lieu de formation de cette neige en Antarctique. Donc ce sont les mêmes techniques analytiques appliquées à deux phénomènes différents, la formation de la grêle d'un côté et de l'autre la formation des neiges et glaces polaires en Antarctique.
Et vous allez travailler ensemble ensuite ?
Oui, pas au départ, j'ai poursuivi ma... J'ai poursuivi ma thèse sur la formation de la grêle pendant 4 ou 5 ans. Et donc Claude Lorius a continué à venir au laboratoire pendant toute cette période régulièrement. Généralement, il revenait avec des échantillons en début d'année, puisque les campagnes en Antarctique se font en décembre, janvier. Et progressivement, effectivement, je me suis intéressé à la formation des neiges, à la glaciologie. Et à la fin de ma thèse, Claude Lorius me propose effectivement de le rejoindre à Grenoble. En fait, je resterai à Saclay pour travailler sur les glaces polaires. Voilà, une amitié est née et puis j'ai accepté, enfin je suis allé progressivement de la grêle vers l'étude des neiges et glaces polaires. Et grâce à Claude Lorius, eh bien, j'ai vraiment la chance de participer tout au long de... qui sont pratiquement de ma carrière scientifique, à cette vraiment utilisation des glaces polaires pour remonter dans le temps.
C'est avec lui que tu as fait ta première découverte, première grande découverte ?
Oui, donc on est début des années 70. D'abord, redisons l'idée. L'idée, c'est que sur une calotte glaciaire, sur un glacier, mais sur une calotte glaciaire, l'Antarctique, c'est énorme. Hein, c'est la taille de l'Europe, avec des épaisseurs de glace de 3, voire 4 km en son centre. La neige s'accumule à la surface, elle s'enfonce sous son propre poids, et donc quand on va creuser, eh bien, plus on creuse, plus on remonte dans le temps. Disons, plus les carottages sont profonds, on va remonter dans le temps. Et il n'y a pas beaucoup, à l'époque, à la fin des années 60, il n'y a que un forage réalisé au Groenland, un autre en Antarctique. Et Claude Lorius, son objectif est de réaliser le premier forage français, ce qu'il réussit avec une équipe grenobloise dans les années 70. Mais là, on ne remonte que sur 40 000 ans, c'est-à-dire... Depuis 12 000 ans, nous sommes dans un climat à peu près, disons qu'on appelle l'Holocène, le climat d'aujourd'hui. La dernière période glaciaire, le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. Et la précédente période chaude, il y a 120 000 ans. Le premier forage couvre à peu près 40 000 ans. Donc il nous apporte déjà des informations sur les températures beaucoup plus froides en Antarctique, en période glaciaire. Mais c'est un autre forage qui va effectivement, défrayer les chroniques. Ce n'est pas un forage français, c'est un forage soviétique. Les soviétiques s'installent dans l'endroit le plus froid de la planète, à Vostok. Et ils y réalisent un forage dans les années 70, au début des années 80. Au début des années 80, ils sont déjà à une profondeur de 2 km, mais ils ne s'intéressent pas vraiment à l'utilisation de ces carottes d'un point de vue scientifique. Et là, Claude Lorius, qui a créé des liens très amicaux avec Volodya Kotlakov, le patron des soviétiques, des équipes soviétiques, eh bien, le convainc de nous s'envoyer ces échantillons. Et ils sont analysés en France. Alors ils sont analysés dans notre laboratoire à Saclay, puis à Grenoble, dans l'équipe de Claude Lorius, de notre côté à Saclay. Alors l'intérêt de ce forage de 2 km, c'est la première fois qu'on a un forage, on est en 1980, au début des années 80, c'est la première fois qu'on a un forage qui couvre l'ensemble d'un cycle climatique. Il y a 120 000 ans, c'était de nouveau une période chaude. Et là, on arrive à peu près à 150 000 ans, c'est-à-dire la période froide, l'avant-dernière période glaciaire. On a un cycle climatique complet, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est la première fois. Et puis, de notre côté, à Saclay, nous construisons les températures, les variations des températures à partir d'analyses de la glace. Et mes collègues grenoblois, Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola, eux analysent les petites bulles d'air extraites dans cette glace et la composition de l'air en gaz carbonique. Et là, surprise, hein, il y a vraiment un parallélisme entre les variations de la composition de l'atmosphère, le gaz carbonique, le premier gaz à effet de serre auquel nos activités contribuent hein, en termes d'émissions, et puis les températures. Donc, c'est la première fois qu'on montre sur cette planète la réalité de l'effet de serre. Jusque-là, on en parlait de façon théorique, ou bien on évoquait les planètes comme Mars et Vénus, dont la composition est différente de celle de la Terre, la composition de l'atmosphère. Il y a aussi à distance, et c'est comme cela qu'on explique les climats différents. Mais sur notre planète, c'est la première fois qu'on voit clairement ce lien entre effet de serre et climat sur 160 000 ans. Alors, il faut quand même souligner que ces grandes variations climatiques sont avant tout liées à la position de la Terre sur son orbite. Donc la composition de l'atmosphère ne joue qu'un rôle d'amplificateur. Hein, ce ne sont pas les variations de composition de l'atmosphère, de l'effet de serre, qui sont à l'origine de la modification du climat. C'est vraiment la position de la Terre sur son orbite, mais on voit de façon très claire une participation de l'effet de serre au changement climatique, au grand changement climatique, moins d'effet de serre, moins de gaz carbonique pendant la période glaciaire, plus pendant les périodes chaudes. Autre point très important, les valeurs, les teneurs en gaz carbonique, la quantité de gaz carbonique, eh bien, même dans les périodes chaudes, sont déjà 30 à 40% moins importantes que celles que l'on mesure à cette époque, les années 80, dans l'atmosphère. On a déjà, à travers nos activités, augmenté la composition de l'atmosphère en gaz carbonique d'au moins 30%. Et donc on voit que la période récente, eh bien, ce sont vraiment les activités humaines qui sont à l'origine de ces variations de composition de l'atmosphère. Et pour l'affirmer, il faut bien sûr avoir du recul, et c'est ce que nous apporte cette carotte de Vostok.
Et tu dis que ça a été une surprise, c'est un résultat auquel vous vous attendiez pas ?
Oui, parce que on nous enseignait que l'effet de serre n'avait probablement pas beaucoup varié de façon naturelle. Effectivement, c'est ce qu'on nous enseignait.
Et est-ce qu'il y a une émotion qui se crée quand on tient un morceau de glace avec autant d'histoires ?
Oui, c'est vrai. Et cette émotion, elle reste d'ailleurs chez les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes sont chez... je vais encore au laboratoire, mais de façon très épisodique, mais beaucoup des jeunes qui y sont actuellement, ils sont venus justement par cette attractivité des régions polaires, cette attractivité de l'aventure, cette idée de tenir un morceau de glace, d'aller dans des endroits où personne ne va. Et cela, ce sentiment d'aventure reste... Il y a très peu de terres d'aventure encore qui restent sur notre planète. L'Antarctique en est une, et même le Groenland, le centre du Groenland, ce sont des endroits où... Eh bien, personne d'autre que les scientifiques ne sont allés.
Je te propose maintenant de passer à notre prochaine date, si ça te va.
Oui.
C'est parti. Nous sommes en décembre 2002, dans un amphithéâtre à la Sorbonne, et cela ressemble à une remise de prix, c'est bien ça ?
Oui, c'est le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Voilà, je suis avec Claude Lorius, et nous avons reçu, alors je ne dirais pas partagé, parce que nous aurons chacun une médaille d'or du CNRS, ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel. Depuis, je crois ne pas me tromper, c'est la seule médaille d'or qui a été... décerné à deux personnes au cours, enfin moi depuis le début de ce siècle. Et c'est vrai que ça a été vraiment une surprise, cette médaille d'or, et je me souviens un peu de ma stupidité, puisque quelques mois avant, la directrice générale du CNRS, Geneviève Berger, m'appelle et elle me dit: vous avez la médaille d'or du CNRS. Mais je lui dis: c'est pas possible, je suis au CEA. Mais d'ici, vous avez la médaille d'or du CNRS. Et donc voilà, avec Claude Lorius.
Parce que pourquoi c'est pas possible d'avoir une médaille d'or
Oui, ma réaction première a été celle-là. Au lieu de dire je vous remercie de la médaille d'or du CNRS, j'ai effectivement dit ce n'est pas possible, je suis au CEA. mais voilà, c'est la réalité, c'est un souvenir. Voilà, et donc c'est prestigieux en France, la médaille d'or du CNRS. C'est une fois par an. C'est toutes les disciplines confondues, donc on voit bien qu'il y a une compétition. Voilà, d'ailleurs depuis il n'y a eu, je crois, qu'une fois une médaille d'or dans nos domaines. Et donc pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel. Et si on revient, eh bien ça reste quand même l'histoire de ce forage de Vostok qui en est vraiment à l'origine. Donc 87, nous avons 160 000 ans de climat, et puis on continue malgré les difficultés. Il faut bien voir que en 90, c'est bien sûr l'effondrement de l'URSS, les soviétiques deviennent des russes, là où nous allions Leningrad devient Saint-Pétersbourg, et c'est pas facile pour les équipes russes de continuer. Ils étaient à peine soutenus dans des endroits où disons, il fait moins 80 degrés l'hiver, ils hivernaient. Il y a eu le feu à la station, mais malgré tout cela, eh bien, et grâce à des collègues français comme Jean-Robert Petit, ils ont pu poursuivre jusqu'au fond de, non pas jusqu'au socle rocheux, mais jusqu'à un lac, parce qu'ils se sont arrêtés un peu au-dessus de la surface d'un lac, le lac Vostok. Disons, sous 4 km de glace ou 3 km 500 de glace, il y a effectivement de l'eau liquide. Mais pour nous, ce qui nous intéressait, c'était la glace, et ça représente cette fois 4 cycles climatiques. Alors que dans les années 80, nous avions couvert un cycle climatique, là nous en couvrons 4. Et le résultat est toujours le même, ce lien très fort entre gaz à effet de serre, cette fois le gaz carbonique, mais aussi le méthane et climat. Et nous sommes rentrés dans une nouvelle période, c'est-à-dire que 87, eh bien, ces résultats de Vostok contribue à la prise de conscience du rôle des activités humaines, du rôle potentiel des activités humaines sur notre climat, puisque à travers nos activités, nous modifions l'effet de serre dont nous montrons et dont les modélisateurs du climat ont montré qu'il était vraiment le moteur des variations du climat. Plus l'effet de serre est important, plus le réchauffement le sera. Se met en place le GIEC en 88, premier rapport du GIEC en 90, la Convention climat en 92, et tout au long de cette période, eh bien, le diagnostic de la communauté scientifique, celle du GIEC, donc moi j'y rentre en 94, s'appuie effectivement sur ces données du passé, ces résultats de Vostok, montrant le rôle effectif de l'effet de serre sur notre planète. Donc nous sommes rentrés, grâce à ces données du passé, de plein pied dans cette dynamique qui consiste à regarder vers le futur. C'est ça qui est important. Ce qui m'a toujours intéressé, et Claude Lorius également et d'autres, c'est intéressant de reconstituer l'évolution passée de notre climat, mais c'est surtout intéressant d'essayer d'extraire des informations, et elles le sont, des informations pertinentes par rapport à l'évolution future de notre climat. On comprend bien que cette variation de l'effet de serre, démontrée dans le passé, eh bien, nous apporte des informations sur ce que deviendra notre climat dans le futur. Bien sûr, ce sont les modélisateurs du climat qui vont, à travers des modèles climatiques, prévoir, se projeter dans le futur en fonction de l'évolution des émissions de gaz carbonique, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Mais c'est vraiment un point très important dans les rapports du GIEC que ces données du passé sur lesquelles on peut s'appuyer pour apporter le témoignage d'un rôle effectif de la composition de l'atmosphère dans notre climat.
Et si c'est à partir de là que ça a commencé à avoir un impact sur les prises de conscience, est-ce que c'est à partir de ce moment-là aussi que tu as commencé à être
un lanceur d'alerte. Oui, c'est je crois avant la création au moment de la création du GIEC, je crois en 89, là, une des premières émissions où je dis effectivement ma certitude que si on continue à augmenter l'effet de serre, ce que nous faisons, eh bien, nous irons vers des réchauffements importants. C'est le diagnostic, c'est le rapport Charney en 79, c'est le premier rapport du GIEC. Et j'ai, à partir de ce moment-là, effectivement été convaincu de la réalité du risque de réchauffement climatique lié à nos activités. Je rentre au GIEC à ce moment-là, dont le rôle est effectivement aussi de regarder vers le futur. Et donc, effectivement, progressivement, je m'intéresse dans les années 90 à l'évolution future de notre climat et je dis cette conviction des risques que nos activités font porter sur le climat du futur par rapport aux jeunes générations. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de lanceur d'alerte, effectivement.
Et est-ce que quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé ta carrière, tu pensais que tu allais avoir cette position-là plus tard ?
Non, absolument pas. Non, c'est vraiment enfin, je ne suis pas né écologiste, c'est très clair. J'aime bien la nature, je suis né à la campagne, mais non, c'est vraiment les travaux de, disons, cette immersion dans la recherche scientifique, mais aussi dans la modélisation du climat, pas simplement les glaces polaires, qui m'a fait prendre conscience des risques posés et qui m'a conduit à m'exprimer parce que voilà sur ce risque et donc à devenir un des lanceurs d'alerte. Rétrospectivement, force de constater que nous étions avec Claude Lorius et quelques autres à l'époque les premiers lanceurs d'alerte en France. C'était plus les paléoclimatologues qui lançaient l'alerte que les climatologues à l'époque.
Et du coup, quand on est aussi conscient que toi finalement de ce qui se passe, parce que tu as été vraiment tout près de la découverte de la problématique, comment on fait pour améliorer notre résilience face à un changement qui est plutôt lent? Est-ce que tu n'as pas eu des fois envie d'abandonner ce combat?
Alors pourquoi je n'ai pas abandonné le combat? D'abord parce que la recherche est passionnante. Donc c'est aussi l'époque, j'y reviendrai, de la découverte d'invariations rapides, de ce risque de surprise climatique. Donc la recherche est passionnante plutôt que de me décourager, j'ai toujours, opté de façon assez implicite, plutôt à encourager l'action. Dès dans les années 90, les entreprises s'intéressent à certaines entreprises, pas toutes, loin de là. À l'époque, il y a pas mal de climato-scepticisme encore, s'intéressent à cette découverte, à ces découvertes de Vostok, mais aussi plus généralement aux risques posés par les activités humaines sur le réchauffement. Donc je participe à ces échanges. Et assez rapidement, mais c'est plutôt là au début des années 2000, les décideurs politiques, je me souviens de Dominique Voynet à l'époque, viennent vers nous pour nous interroger par rapport à ces risques. Je réponds, je pense que c'est le rôle d'un scientifique de répondre aux sollicitations des décideurs politiques. Je le fais, je m'intègre. Je suis intégré très rapidement à la délégation française pour les discussions de la Convention climat, ce qu'on appelle les COP. Donc, et je continue à participer au GIEC jusqu'en 2015 et j'ai participé à toutes les conférences climat depuis, 2001, jusqu'à la dernière à Sharm el-Sheikh. Donc, je me suis progressivement de plus en plus intéressé à l'évolution future de notre climat, aussi bien à travers le GIEC, à travers l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont j'ai pris la direction, et où on développe effectivement des modèles climatiques, et aussi à travers ma participation aux conférences climat. Et progressivement, eh bien, les décideurs politiques s'y sont intéressés de plus en plus. Bien sûr, c'est d'abord ces discussions des COP au niveau planétaire, mais aussi une prise de conscience beaucoup plus large. J'ai été sollicité pour participer au Grenelle de l'environnement. J'étais responsable du groupe climat-énergie lié aussi à la mobilité, bâtiment et l'urbanisme. Et depuis les années 2000, j'ai été plus ou moins associé à, je dirais, toute la politique climatique française, tous les groupes de travail, aussi bien ensuite sur l'adaptation, sur la loi de 2015, sur la conférence de Paris en 2015, et encore plus récemment, j'ai été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Donc j'ai eu la chance, à côté d'une carrière scientifique, de participer à, de façon très proche à l'élaboration de la politique française dans le domaine climatique. Voilà, qui est ambitieuse, elle l'est, hein, disons, puisque dans notre loi, nous avons cet objectif de neutralité carbone en 2050, mais dont on constate que cette ambition ne se traduit pas dans les actes. Hein. Nous avons beaucoup de retard par rapport à ce que nous devrions faire, ce que nous engageons à faire dans ce réchauffement climatique. Donc ce volet m'a beaucoup intéressé, et c'est pour ça aussi que je n'ai pas abandonné cette idée. Donc, disons, j'ai eu la chance de pouvoir mener en parallèle une carrière scientifique et une carrière, disons, intéressée les décideurs politiques, mais aussi le grand public, les jeunes, à ces problèmes de réchauffement climatique.
J'ai lu une interview sur toi dans un des médias, je me rappelle plus c'est lequel, je me rappelle plus exactement, mais c'était quelque chose comme on t'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait face aux climato-sceptiques ? J'avais bien aimé ta réponse, tu avais répondu quelque chose comme il y a des climato-sceptiques, bah c'est pas grave, on continue
oui,
les recherches.
Oui, c'est pas grave, et ce que je dis sur le climato-scepticisme, c'est que le scepticisme est légitime en soi. C'est tout à fait normal, disons, si on accepte la réalité du réchauffement climatique, ça amène forcément à prendre à conscience que finalement nous devons regarder notre modèle de développement. On va parler de sobriété, et donc c'est normal que les gens nous demandent « êtes-vous sûr de ce que vous dites ?» Parce que si on y croit, ça veut dire que, et c'est le cas actuellement, quand on parle de neutralité carbone en 2050, c'est pas rien. Ça veut dire que si on accepte la réalité du réchauffement climatique, ça va avoir un impact sur tout le mode de fonctionnement de notre société. Donc c'est normal que les gens nous interrogent. Donc le scepticisme est normal. Mais au bout d'un moment, il n'a de sens que si les climato-sceptiques, dans ce cas présent, acceptent la discussion, ce qui n'a quand même pas été le cas, et aussi acceptent, parce que progressivement, nous avons eu dans les rapports successifs du GIEC, par exemple, maintenant, nous affirmons dans le dernier rapport que c'est une certitude, ce lien entre le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui et les activités humaines. Donc, à un moment, il faut aussi accepter les arguments justement de ceux qui travaillent de notre communauté scientifique. Donc voilà, et quelquefois il y a eu un certain manque d'élégance des climato-sceptiques. Simplement, on peut citer Claude Allègre, dont l'élégance n'était pas la qualité principale.
Eh bien, entamons notre dernière date, notre dernier voyage dans le temps. Nous sommes cette fois en 2012. Le drapeau américain trône au-dessus de deux sièges et un pupitre sur lequel on peut lire « Columbia University in the City of New York ». Le maître de cérémonie t'appelle. Applaudissements. Que reçois-tu ce jour-là ?
Le prix Wettlesen, qui est un prix prestigieux qu'ils ont créé dans les années 50, je crois. Je suis le premier Français à le recevoir avec Susan Solomon, qui est une chimiste américaine, qui elle le reçoit pour ses travaux sur la formation du trou d'ozone. Donc moi je le reçois largement à cause d'un projet, toujours dans la ligne de ces recherches que nous avons évoquées. Et cette fois nous ne sommes plus à Vostok, ce forage soviétique, mais avec une équipe européenne, eh bien nous avons conduit mais ça a pris une dizaine d'années, une quinzaine d'années, un forage qui nous permet de reconstituer 800 000 ans de climat. Et là, j'en étais responsable, au moins, sur la première partie. C'est un collègue allemand sur la seconde partie, mais j'en ai pris la responsabilité. Et cela confirme ce que nous avons effectivement montré sur 400 000 ans, ce lien entre effet de serre et climat. Je suis aussi récompensé pour ma participation sur la découverte des variations climatiques rapides, donc j'ai été associé, là c'est plutôt les glaces du Groenland qui nous montrent qu'il y a eu dans le passé des variations extrêmement rapides de notre climat, plutôt à l'échelle régionale qu'à l'échelle planétaire, mais ça a une importance et d'où cette idée de possibilité de surprise climatique, de modification du Gulf Stream et donc d'une influence de la circulation océanique dans nos régions. Et cela aussi a été, je crois, un des grands moments parce que je suis beaucoup allé au Groenland 5 fois, alors qu'en Antarctique, je n'y suis allé qu'une fois. Donc je suis très attaché à ces recherches sur le Groenland. Et je crois que ce qui est intéressant dans le prix Wettlesen, c'est aussi, bien sûr, la récompense pour ces 800 000 ans de climat, mais aussi la reconnaissance de mon rôle de lanceur d'alerte. C'est assez intéressant. Dans la citation, effectivement, il y a cette notion de lanceur d'alerte, récompensé également pour avoir effectivement dit la réalité du réchauffement climatique futur lié aux activités humaines. Et cela, ça m'a fait énormément plaisir.
Et 800 000 ans de climat, c'est énorme. Est-ce que l'objectif, c'est d'aller encore plus loin?
Oui.
Et pourquoi?
Alors, pourquoi? Parce que, eh bien, déjà, 400 000 ans, c'est ce qu'on apprend à l'école. Il y a quatre grands cycles glaciaires, interglaciaires, quatre grandes périodes glaciaires. Et puis, entre moins 400 000 ans, moins 800 000 ans, eh bien, disons, les périodes chaudes sont moins chaudes qu'actuellement. Et donc, c'est un rythme différent. Et on sait qu'avant 800 000 ans, eh bien, il y a encore un rythme différent. C'est-à-dire que ces cycles glaciaires-interglaciaires qui surviennent tous les 100 000 ans, eh bien, après un million d'années, ils surviennent plutôt tous les 40 000 ans. Et c'est vrai que c'est important de comprendre les mécanismes. Est-ce que c'est la composition de l'atmosphère qui joue un rôle ou pas? De comprendre les mécanismes de ce changement de rythme de variation du climat. Et c'est ce qu'essayent de faire mes collègues actuellement. Vient de se terminer en Antarctique, en fait. Il y a un site qui est à une cinquantaine de kilomètres de celui que nous avions exploré, où on espère atteindre 1,5 million d'années. Bien sûr, ça va pas cette glace, le forage commence tout juste, ça prend du temps, mais il y a l'espoir de d'avoir de la glace plus vieille de plus d'un million d'années, jusqu'à 1,5 million d'années d'ici 2025-2026. Voilà, et cela, eh bien, ce sont, bien sûr, je suis moins impliqué, mais mes collègues, disons, c'est leur projet phare actuellement, et c'est important, tout aussi important que ce que nous avons fait, évidemment.
Merci Jean pour ces trois dates clés et ces trois voyages dans le temps. Avant de conclure, je te propose qu'on passe à la question de l'étudiant, mais cette fois-ci c'est un peu spécial pour ce numéro, c'est la question d'un alumni. Alix, est-ce que tu es avec nous?
Oui, bonjour.
Salut Alix, bienvenue.
Merci.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis après je te laisse poser ta question à Jean.
Alors, je suis alumni de l'EFRAY Promo 2013, je m'appelle Alix et je suis ravi de vous avoir en ligne puisque effectivement Jean Jouzel est un invité de marque et j'avais une question à lui poser.
Eh ben vas-y, je t'en prie.
Alors, je voulais savoir, j'avais lu que vous attendiez plutôt à avoir un refroidissement dans le climat lorsque vous débutiez vos recherches et que vous avez eu l'effet inverse. Et donc je voulais connaître l'importance de l'astronomie et des cycles de Milankovitch dans vos recherches.
Oui, merci Alix. Ces 800 000 ans de climat témoignent de façon très claire du rôle des changements d'insolation dans l'évolution de notre climat. J'ai bien parlé de la composition de l'atmosphère est un amplificateur, mais à l'origine de ces grandes variations climatiques, c'est la position de la Terre sur son orbite. Celle-ci est déterminée par trois paramètres, la forme de l'ellipse, disons de la forme de l'orbite terrestre, l'inclinaison de la Terre et sa position au moment où elle est le plus proche du Soleil, ce qu'on appelle la précession. Alors, on voit dans ces 800 000 ans le rôle très important de ces variations d'insolation. On retrouve les périodicités de l'insolation dans les enregistrements climatiques, des périodicités de 20, 40 et 100 000 ans. Et ça nous éclaire aussi, ces 800 000 ans, sur la question qu'Alix pose. Pourquoi, dans les années 70, certains chercheurs pensaient-ils que nous allions vers une période glaciaire assez rapidement? Nous étions dans une période chaude. Nous sommes dans une période chaude depuis un peu plus de 10 000 ans. Et quand on regarde toutes les précédentes périodes chaudes, il y a 120 000 ans, 240 000 ans, 320 000 ans et 400 000 ans, aucune de ces périodes chaudes des trois précédentes ne durait plus de 10 000 ans. On pensait donc que c'était une règle. Et comme nous étions déjà à 10 000 ans de périodes chaudes, eh bien que nous allions aller rapidement vers la nouvelle période glaciaire. Pourquoi n'en est-il rien? Eh bien parce que dans la forme de l'ellipse, il y a une périodicité de 400 000 ans. Et lorsque, disons là, l'orbite terrestre est pratiquement circulaire, eh bien, il y a très peu de variations d'insolation et ça met beaucoup de temps à passer dans la période glaciaire suivante. C'était le cas il y a 400 000 ans. Notre orbite était pratiquement circulaire et c'est le cas aujourd'hui. Mais ce n'est que dans les années 90 que nous avons compris que c'est grâce à l'astronomie que la période actuelle chaude, même si nous n'étions pas là, en fait durerait près de 30 000 ans. Il y a 400 000 ans, c'était le cas. Tous les 400 000 ans, les périodes chaudes sont plus longues que les périodes chaudes normales. En gros, c'est un peu le hasard, mais c'est bien que nos civilisations se soient développées dans une période chaude qui naturellement serait beaucoup plus longue. La précédente durait moins de 10 000 ans, et donc si notre civilisation s'était développée il y a 120 000 ans, eh bien, elle aurait fait face rapidement à un mur, à une nouvelle période glaciaire, moins de 10 000 ans plus tard.
Merci pour cette réponse qui amène une deuxième question, un peu à la suite. Est-ce que ça voudrait dire que si on vivait une nouvelle période glaciaire, le réchauffement climatique actuel ne suffirait pas à le compenser?
C'est toute la question. On peut penser effectivement que la composition de l'atmosphère, le fait qu'on a on aura peut-être deux fois plus de gaz carbonique qu'il y a 150 ans, nous empêcherait en tout état de cause de passer dans une période glaciaire. Donc effectivement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je dis souvent, c'est presque une boutade, mais ça ne l'est pas finalement. Si notre humanité était intelligente, elle garderait des combustibles fossiles pour éviter le prochain passage à la période glaciaire. Mais ce ne serait que dans plus de 15 000 ans actuellement. Mais c'est vrai qu'il faudrait jouer, si nous étions collectivement intelligents, sur le moment où nous émettons les gaz à effet de serre pour éviter le passage dans une prochaine période glaciaire. C'est impossible. On n'imagine pas Londres sous un kilomètre de glace ou bien des villes du Nord. Voilà, c'est un monde qu'il faut tout faire pour éviter.
Alix, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça répond à ta question?
Oui, parfaitement. Merci à vous deux. Merci Jean Jouzel pour cette réponse rapide et précise. Effectivement, je rejoins votre boutade. Peut-être que l'humanité n'est pas si intelligente que ça. À nous de nous mettre au niveau et voyons ce que l'avenir nous réserve.
Merci Alix.
Merci Alix. Merci Jean, mais alors avant de conclure, j'aurais une question, parce que en fait, on peut penser que le numérique et la protection de l'environnement, ce sont deux choses complètement opposées. Et le podcast étant produit par Les Frais, il y a beaucoup d'acteurs du numérique qui nous écoutent. Du coup, quelle est la place de ces acteurs-là dans toute cette dynamique? Quel est leur rôle?
Alors, il y a le côté pile, le côté face en termes, du rôle du numérique par rapport à ces problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. D'un côté, le numérique, alors pas simplement, y compris les équipements, participe actuellement à 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et si le numérique se développe sans y prendre garde, on pourrait atteindre 6-7% d'ici 2030. Donc c'est beaucoup. Il y a effectivement des moyens de développer le numérique en faisant attention à ce que ce numérique ne soit pas à l'origine d'émissions importantes, aussi bien dans la fabrication des matériels que dans leur utilisation. Bien sûr, il y a aussi l'avantage du numérique qui peut nous libérer de certaines tâches qui, par exemple en termes de mobilité ou faciliter une mobilité qui soit sobre en carbone. Donc c'est tout cela qu'il faut faire. Il faut que le numérique vise, comme les autres secteurs d'activité, neutralité carbone à horizon 2050. Évidemment, il y va aussi du type d'énergie qui est produit, mais voilà, le numérique ne peut pas, se développer sans porter d'attention à ses conséquences environnementales, en particulier celles qui nous concernent aujourd'hui, c'est-à-dire sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre.
Voilà, on arrive à la fin de cette matinée passée ensemble. Merci beaucoup, Jean.
Merci, Laure. Merci pour ton engagement. Merci à tous les jeunes qui s'engagent avec l'espoir qu'ils puissent s'entraîner l'ensemble de ta génération. C'est ça qui est important.
Oui, c'est la première fois que je remonte aussi loin dans le temps avec le podcast KeyTime. En tout cas, le message, il est passé. Merci pour cette prise de conscience. À nous maintenant de prendre la relève et de continuer le combat que tu as entrepris. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.